Podcastobuzz.com. Rencontre par Marc Zisman.
Bonjour Jean-François Esser.
Bonjour.
Alors nous sommes à Nantes pour la folle journée. Ça évoque quoi pour vous cette manifestation complètement unique et un peu ovni dans le paysage musical français, même presque mondial?
Beaucoup de souvenirs au fil des années, parce que ça ferait maintenant pas mal d'années que je viens, parfois avec certaines avec des interruptions, parce que c'est bien voilà, de se mettre un petit peu en retrait, de revenir, voilà. Et en tout cas, beaucoup de bons souvenirs, et puis de voir évoluer cette manifestation qui évolue, je crois, dans le bon sens. On le voit cette année, d'ailleurs, parce que le public est là, non seulement pour les grands chefs-d'œuvre du répertoire, mais aussi pour des choses beaucoup plus rares. Et d'ailleurs, on a donc préparé un disque qui sort aujourd'hui, avec des pièces d'un répertoire un peu moins... Enfin, même franchement moins joué et connu que les grands tubes. Et voilà.
Donc le disque s'appelle Vienne, enfin Vienne, même c'est même écrit en VO, j'allais dire, 1925, avec l'orchestre Poitou-Charentes que vous dirigez, du Berg, du Strauss, du Schoenberg. Ce type de programme, ce type d'album, tant sur le choix évidemment des œuvres, parfois pas les plus connues d'ailleurs, des compositeurs en question, l'assemblage comme ça, c'est important pour vous de quand on grave quelque chose, donc quand on fait un disque, peut-être parfois de sortir un peu des sentiers battus de certaines œuvres qui ont été enregistrées, réenregistrées, etc.
Moi j'ai toujours essayé de le faire, c'est-à-dire en même temps de faire bien sûr des grands chefs-d'œuvre du répertoire, mais aussi de faire de l'enregistrement pour faire découvrir, même si on est bien sûr que les ventes ne sont pas forcément les mêmes que si on enregistre les dernières symphonies de Beethoven ou de Mozart. Mais en tout cas, ce disque, d'abord, c'est un chef-d'œuvre, un des plus grands chefs-d'œuvre du XXe siècle, c'est le Kammerkonzert d'Alban Berg, qui est une pièce, c'est vrai qu'on n'entend pas énormément en concert, et c'est dommage, parce que c'est une pièce qui est vraiment faite pour ça. Il y a un côté très visuel, très spectaculaire. Et par contre, le problème du couplage, vous savez, pendant des années, on a dit le disque, il faut que ça soit un seul compositeur, parce que c'est plus facile à ranger dans les bacs, à la FNAC, tout ça. Bon, alors on a un petit peu, heureusement, dépassé ce concept. Et là, c'est un disque avec ce titre générique de Vienne, c'est-à-dire Vienne au milieu dans la première partie du XXe siècle, avec l'avant-garde, illustrée par cette école de Vienne de Schoenberg, Berg et Webern, et puis toujours cette présence très forte de la valse viennoise autour du souvenir de la famille Strauss, entre autres. Et donc c'était l'association un petit peu d'une œuvre exigeante comme le Kammerkonzert de Berg avec un langage très nouveau, très révolutionnaire, et puis la valse de Strauss qui a été d'ailleurs bien considérée par ses compositeurs réputés savants ou intellectuels et eux-mêmes avaient une grande admiration pour cette musique populaire que représente la valse viennoise de la famille Strauss. Donc c'était intéressant d'avoir cette association, et voilà, j'espère que ça va fonctionner, en tout cas.
Est-ce que pour vous, l'approche musicale est la même quand vous êtes face à une œuvre qui, a, comme vous l'avez dit, a été peu enregistrée, ou quand, au contraire, vous abordez justement une œuvre qui a plein d'œuvres de référence, etc. Est-ce que finalement, c'est la même chose pour vous ?
Alors, si on parle en termes de difficultés, alors difficultés d'écoute, ça, je viens d'en parler, mais la difficulté, je dirais, d'interprétation, il est certain que des pièces réputées extrêmement difficiles comme le Kammer Concert, bon, mais les, évidemment, il faut travailler beaucoup, il faut répéter beaucoup, il faut faire beaucoup de concerts pour arriver à maîtriser. Mais en même temps, les œuvres populaires, et ça dans tous les langages populaires, que ce soit à Vienne, que ce soit en France avec l'opérette, par exemple, que ce soit en Espagne avec la musique beaucoup appuyée sur le, les à la fois sur le folklore, par exemple le flamenco, voilà. Il ne faut pas croire que ces musiques-là soient beaucoup plus faciles à interpréter, à jouer. Bien au contraire, ça réclame aussi beaucoup d'exigences, autant d'exigences que pour la musique dite savante.
Au-delà de la technicité, de tout, effectivement, ces difficultés que vous soulevez, le simple fait que, qu'il y ait une histoire liée à l'enregistrement, pas uniquement techniquement, mais le fait de savoir qu'il y a une certaine virginité de la part des mélomanes ou de l'auditeur face à des œuvres peu connues, peu entendues, est-ce que même vous, c'est pour vous, c'est, l'approche sera différente? Ou finalement, c'est la même chose quand vous vous retrouvez face à une pièce de Beethoven que tout le monde peut connaître, ou avec de nombreuses versions, de nombreuses interprétations de références, que si c'est une œuvre, par exemple, de Falla, qui en France, par un compositeur tellement joué.
Mais je crois qu'il est important, c'est de, non pas de rénover, mais de faire une interprétation qui soit l'interprétation de nos jours, enfin, de notre époque. Alors que ça soit pour Beethoven, c'est très flagrant, puisque tout ce répertoire classique a été... on va dire dépoussiéré, c'est un petit peu péjoratif pour ceux qui nous ont précédés, parce que ceux qui nous ont précédés ont fait un travail immense et qui correspondait à un goût de l'époque. Alors, ce goût a certainement évolué, parce qu'il y a eu des musiciens qui ont apporté des éléments nouveaux, qui sont retournés aux sources, par exemple, toute la musique, l'influence de la musique baroque, qui nous a éclairé beaucoup sur ces grands classiques. Et je pense que c'est la même chose pour la musique plus contemporaine, plus proche de nous, où, effectivement, c'est resté dans un, je dirais, dans un compartiment avec une casquette intellectuelle, par rapport à un public, une approche plus difficile, c'est-à-dire réclamer plus d'attention, eh bien, il faut revenir à des données plus, justement, plus simples, c'est-à-dire faire sortir des caractères, faire sortir, là c'est tout à fait flagrant avec cette pièce du Kammer Concert, qui est une pièce extrêmement écrite, très conceptuelle, et qui en même temps porte beaucoup de sentiments humains qui correspondent effectivement à ce qu'on trouve dans une vase de Schroes, dans des musiques très réputées, très simples ou simplistes.
Sur la variété et l'étendue des répertoires que vous abordez, tant au niveau stylistique qu'au niveau des périodes, après on peut même voir sur le fait que vous soyez aussi bien à la baguette et aussi au clavier, etc. Cette curiosité, cette envie, c'est quelque chose qui était en vous depuis toujours. À quel moment c'est venu dans votre éducation musicale, ou c'était finalement dans vos gènes depuis toujours, une envie de découvrir des territoires, soit peu ou pas connus, plus en même temps, mais également de passer par les incontournables ou les classiques? Ou c'est venu au fil
du temps? C'est les rencontres. Des rencontres qui attirent votre attention sur des répertoires. Je sais que par exemple, un de mes premiers disques, c'était l'œuvre pour piano de Paul Dukas. En fait, c'était une commande. On m'a demandé de faire ça. Peut-être j'aurais pas eu de moi-même l'idée d'aller voir là, et d'un seul coup, je m'en suis emparé. Et ça a fait partie de moi, et ça en fait toujours partie. C'est des œuvres que je joue toujours. Et pourtant, c'était non pas délaissées, mais qui était quand même un peu sur le côté. Et puis après, ça s'est enchaîné avec des périodes de ma vie qui ont été consacrées plus aux phénomènes contemporains, ou au contraire, plus un retour au classique, mais tout ça toujours imbriqué. C'est l'imbrication, c'est-à-dire que quand vous travaillez du Beethoven, ça vous renvoie sur la musique d'aujourd'hui. Quand vous travaillez la musique d'aujourd'hui, ça vous éclaire sur ce que vous auriez éventuellement envie de faire avec Beethoven ou Schubert.
Thank you.
Vous abordez les contemporains, pour vous, il y a une mission pour un interprète, un musicien, de jouer la musique de son siècle, la musique de son temps même surtout.
Je pense que ça devrait faire partie de toute façon du travail de tout musicien qui se respecte. C'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'on peut participer aux fêtes contemporains ou à l'action des compositeurs aujourd'hui. Vous enrichit par rapport aux compositeurs d'hier. Et ça, c'est vrai que beaucoup de musiciens l'ont peut-être pas encore accepté ou admis, et on a toujours trop tendance à compartimenter, c'est-à-dire à voir que la musique, c'est une globalité, et que l'époque n'a pas grand-chose à voir là-dedans. Donc c'est vrai que ça m'aurait été très difficile, si je prends par exemple le cas de Beethoven, qui est certainement pour moi peut-être le plus grand compositeur, avec qui j'ai passé beaucoup de temps tout au long de ces années, ça aurait été très difficile en même temps de m'enfermer là-dedans, comme certains ont pu le faire, mais d'ailleurs c'était leur vie, c'était comme ça, mais pour moi ça a été autre chose.
Est-ce qu'on peut faire aussi un parallèle sur le fait de passer de la direction au piano? C'est-à-dire, est-ce que l'impact de l'un sur l'autre est-ce que c'est un peu des vases communicants? Comment la direction influence votre jeu, et comment votre jeu influence le piano, et comment votre piano influence votre direction?
Oui, ça c'est... Ben, c'est tout à fait flagrant. Moi j'ai toujours eu tout de suite l'idée de l'orchestre dans la tête, ou le son de l'orchestre dans la tête, et qu'on essaye de... parfois de reproduire au piano. Alors, j'en reviens encore à Beethoven, qui est quand même un des grands repères intemporels. Si on joue une sonate de Beethoven, on peut imaginer que cette sonate de Beethoven pourrait être orchestrée. Alors si on l'orchestre, finalement, ça ne fonctionnera pas parce que ça n'a pas été fait pour ça. Mais en même temps, si on joue cette sonate de Beethoven et qu'on a dans la tête des sonorités d'orchestre, je pense que c'est aussi une vision très différente. Donc, parce que Beethoven savait très bien ce qu'il a fait, donc s'il a écrit pour piano, c'était vraiment pour piano, s'il a écrit pour orchestre, c'était vraiment pour orchestre. Et en même temps, il y a toujours ce va-et-vient permanent de ces compositeurs. Alors c'est encore même plus flagrant si vous prenez par exemple les grands compositeurs français comme Debussy, Ravel, par exemple, où là, il y a eu une ambiguïté encore plus flagrante entre l'instrument et le son d'orchestre. La meilleure preuve, c'est que vous voyez toutes les transitions qui ont existé. On joue, vous entendez autant la valse de Ravel à deux pianos, dans la version à deux pianos, ou la rhapsodie espagnole, ou les transcriptions de Debussy, je ne sais pas, le prélude de l'après-midi d'un faune, enfin tout ce que vous voulez. Donc pour un pianiste, c'est vrai que c'est différent. Pour un instrumentiste qui passe à la baguette, souvent ça relève d'une, j'allais dire, frustration. C'est vrai, parce que si vous prenez par exemple un flûtiste ou un clarinettiste qui va se mettre à la direction, c'est ça aussi parce qu'il a envie de dépasser le cadre d'un instrument dont le répertoire est relativement limité, il faut bien le reconnaître. Donc ça c'est une autre démarche. Pour un pianiste, c'est vrai que c'est beaucoup plus global et ça fait partie de sa vie. Enfin, je parle des pianistes qui naturellement se dirigent vers la direction au bout d'un certain nombre d'années.
Est-ce que c'est tout le temps la même personne, finalement, qui est et à la baguette et au piano?
Oui, bien sûr.
Sans aucun doute. Pour revenir sur les répertoires peu visités, peu populaires, ou moins joués, etc., vous êtes un grand défenseur de la musique espagnole. Comment vous expliquez comme ça que certains répertoires, malgré les années, restent quand même toujours un peu dans une sorte de ghetto? Pourquoi, par exemple, là, si on prend cet exemple-là de la musique espagnole, ça reste quand même peu joué globalement, peu enregistré, à quelques exceptions près?
Parce que je pense qu'il y a eu toujours cette relation de la musique dite savante avec la musique folklorique ou la musique légère. D'ailleurs, je participerai à l'émission demain sur la musique légère, sur France Musique. Le public est un peu dérouté. C'est vrai, dans le cas de cette musique espagnole, c'est vrai qu'il y a de cette nouvelle musique espagnole avec des grands compositeurs, Albéniz, Falla, Granados, le fond populaire est tellement fort et la façon de s'en emparer est tellement originale, c'est-à-dire qu'en France, on est aussi, pas seulement en France, en Allemagne aussi, mais dans les pays nordiques en général, qu'on est un petit peu désemparé par rapport à ça. Donc on ne sait pas trop où le classer. Donc on tire ça vers l'élément purement ethnique, d'accord, et d'en faire une musique qui soit moins digne de considération qu'une symphonie classique.
Comment vous vous êtes rentré progressivement dans ces partitions-là? Comment s'est fait votre attirance, votre curiosité?
Je pense qu'on commence à travailler des répertoires, puis on sent si on a envie de continuer, on sent si ça vous va bien, et puis il y a le retour du public qui aussi vous indique si vous êtes en adéquation. Parfois, il y a des choses qu'on essaye, puis on sent que c'est pas trop la peine d'assister.
Ça vous est arrivé?
Je cherche un auteur avec qui ça a pu arriver. Le seul auteur que je joue le seul auteur que je joue peu ou très peu et pourtant que je sens très fort, c'est Schumann. Et en même temps, je ne sais pas pourquoi. Ça ne s'est pas fait. Je parle des grandes œuvres pour piano, même du concerto, parce que le concerto de Schumann est vraiment un des rares concertos du répertoire que j'ai jamais joué. Et je peux pas, si vous me demandez une explication, il n'y en a pas, parce qu'on m'a certainement proposé plusieurs fois de jouer le concerto de Schumann. Donc voilà, il n'y a pas de réponse, ça ne s'est pas fait.
Pour quelqu'un de curieux comme vous, et en même temps, une envie d'essayer de comprendre ça.
Ça relève du fantasme, parce qu'il y a... c'est vrai que j'ai eu des rêves schumanniens, justement d'être porté par des grandes œuvres, je ne sais pas, les Kreisleriana, les grands cycles schumanniens. J'ai fait bien sûr toute la musique des chambres, beaucoup de Lieder, tout ça, mais par rapport au piano de Schumann, il y a une attitude qui, de ma part, qui m'échappe. Donc voilà.
sur l'enseignement, c'est quelque chose, je pense, qui est assez essentiel par rapport à ce que vous faites, la transmission, même comme je pense quand vous parlez d'essayer justement de vous attaquer à des œuvres peu connues, il y a sans doute aussi une volonté de transmission, de faire découvrir. Et est-ce que l'enseignement aussi fait partie pour vous, c'est aussi quelque chose qui rentre dans le cadre de tout le reste? C'est la même chose finalement?
Oui, bien sûr, et puis je vois avec le recul, ici à la folle journée, je peux me mesurer puisque j'ai
quelques élèves
qui ont bien réussi avec ici
entre Jean-Frédéric Neuberger tout à l'heure, effectivement.
Jean-Frédéric et Bertrand Chamaillou. Puis là, il y a un jeune qui vient, je crois pour la première fois, c'est Guillaume Vincent qu'on pourra écouter ces jours-ci. Là. Et donc, c'est à ça que je peux mesurer effectivement que le travail de l'enseignement, d'une part, m'a apporté et puis a pu servir à quelque chose.
Est-ce que vous, c'est aussi un apprentissage, c'est quelque chose qui vous enrichit aussi également? Pas uniquement dans le fait effectivement de voir l'accomplissement, de voir que certains de vos élèves effectivement réussissent, etc. Qu'est-ce que vous-même vous apprenez finalement de cet apprentissage? Est-ce que c'est dans double sens?
C'est très compliqué quand on joue. C'est plus compliqué quand on joue que quand on joue pas. Enfin, je m'explique. C'est-à-dire un professeur qui fait pas de concert, il est dans son enseignement à fond. Et voilà, il est dévoué, je dirais, à cette cause. Pour quelqu'un qui joue, d'abord, on a un problème de temps, c'est-à-dire qu'on est toujours dans la tête, accaparé par ses propres concerts, par, vous savez ce que c'est, la préparation, l'inquiétude, l'idée de s'arranger avec les programmes, d'avoir suffisamment de temps. Et puis, l'enseignement, donc, c'est vrai qu'il y a toujours quand même une idée de lutte, même s'il y a des choses complémentaires. Et je pense que au fil des années, je veux dire, ça m'a apporté énormément, justement, de voir l'évolution donc, des étudiants que j'ai eus, et puis la façon dont moi je mesurais ma propre évolution par rapport au discours que je pouvais leur tenir.
Que de temps en temps, justement, ce que vous dites, c'est planning incroyable, beaucoup de concerts, ces enregistrements, l'enseignement, tout ça, c'est pour une chose aussi intime, j'allais dire, presque personnelle que la musique, il n'y a pas parfois une sorte de contradiction ?
Oui, il faut être un peu schizophrène parfois, ça c'est évident, il faut avoir une capacité d'oubli, c'est-à-dire oublier ses propres angoisses, ses propres préoccupations, et puis arriver, par exemple, dans ce qui concerne les étudiants, à écouter avec une oreille qui soit, le plus détachée de ce qu'on pourrait souhaiter faire soi-même. Je ne sais pas, c'est un petit peu compliqué, mais savoir ce qui va bien pour l'autre, qui n'irait pas forcément bien pour vous.
C'est facile, ça, ou c'est difficile ?
Non, c'est très difficile. Difficile.
Est-ce que, au fil des années, finalement, vous trouvez l'énergie pour tout ça au même endroit que vous la trouviez, je ne sais pas, à vos débuts, tout au long de votre carrière ? Est-ce que finalement tout ça a été assez linéaire ? Ou est-ce que vous avez des sortes de phases, par exemple, de doute ou d'envie ou de non-envie par rapport à...
Moi, j'ai commencé avec le doute. Donc, les doutes, ils n'ont plus que se lever parce que je suis parti du doute absolu.
Ça n'a pas changé.
Je suis toujours dans le doute et ça fait partie de ma personnalité, mais disons que je me fatigue moins, c'est-à-dire qu'avec l'âge, on arrive à économiser plus son énergie, et ça se traduit à la fois dans la tête, mais aussi dans le physiquement, je veux dire par rapport à l'énergie déployée pour simplement pour jouer ou pour diriger après, c'est-à-dire arriver à travailler plus sur la souplesse, le relâchement, enfin le côté moi, je touche un peu aux arts martiaux et depuis peu. Et c'est étonnant la relation qu'on peut faire avec ça, justement, de tout ce qu'on pourrait apprendre l'apport cette souplesse et d'un rapport au corps qui doit évoluer tout le temps avec les années.
J'imagine que ça doit avoir un impact assez important sur votre musique. ce genre de pratique, ce genre.
Sur la musique, ça a eu un impact sur l'approche de la musique.
Oui, l'approche de la musique, oui, bien sûr. Ouais. Est-ce que c'était un... Est-ce que ça sous-entend que ça vous fait réévaluer certaines choses que vous avez faites ou les voir différemment, cette vision que...
Il n'y a pas de choses où je dis, tiens, j'ai joué ça il y a 20 ans, vite, c'était une erreur, tout ça. Donc, j'aime bien inscrire les choses dans une logique. Je ne regrette pas du tout les options que j'ai pu prendre. C'était, à cette époque-là, c'était comme ça et ça ne pouvait pas être autrement. Et je ne pense pas qu'il y ait de révolution. Je trouve qu'on on évolue d'une façon, enfin pour moi, assez, je veux dire, lente, mais avec une conscience de, peut-être de plus en plus affinée, aussi un peu plus de retour, c'est-à-dire qu'on est moins le nez contre la vitre avec les années, quoi.
Est-ce que ça veut dire que quand vous sortez de votre enveloppe et que vous regardez un peu tout ce que vous avez fait, quel regard vous portez justement sur ça? Vous avez parlé de cette logique, cette suite des choses, mais est-ce que vous... Comment, j'allais presque dire, peut-être une question un peu difficile, mais comment vous jugez, comment vous regardez ce parcours? Vous avez dit, je ne regrette pas, voilà, c'était un instant, etc., ce genre de choses, mais quel regard vous portez sur ce parcours, si vous prenez le temps peut-être de regarder ce parcours?
Ben, là, oui, effectivement, je pense que... Moi, j'ai démarré plutôt assez tard, avec beaucoup de complexes dans ce métier, enfin, nettement plus tard que la moyenne des pianistes ou des musiciens qui commencent à faire des concerts. C'est bon. Les études aussi, la période des études, c'était un peu plus tardif. Et donc, j'ai pris à ce moment-là les choses qui venaient comme des bonnes choses, presque inespérées. Et puis après, les choses se sont faites. Il y a la volonté qu'on met dedans, et puis encore une fois, il y a le hasard, il y a beaucoup de hasard, je pense. Je parlais de ces rencontres, ou de ces commandes que j'ai eues. J'ai souvent des commandes qui ont été très bénéfiques. C'est-à-dire, on vous dit, tiens, voilà, est-ce que vous pourriez, quand on a, je ne sais pas, 30 ans, vous pourriez faire ça, ou apprendre cette pièce. Et voilà, je me souviens par exemple d'une pièce que j'ai. Une des pièces qui a beaucoup, beaucoup compté pour moi, c'était les variations d'Diabelli de Beethoven, et je me souviens très bien que c'était une commande. On dit, voilà, dans un mois, il faut relever le défi, et à partir de là, ça s'est inscrit. Et puis, j'ai vécu avec cette pièce, je ne suis pas le seul, hein, parce que les variations d'Diabelli, comme les variations Goldberg, je veux dire, ont accompagné beaucoup d'interprètes de toutes les générations, tout au long de leur carrière. Mais je vois justement cette évolution de l'interprétation, si je peux dire qu'il y en a une, qui n'est pas du tout prouvée, mais voilà, c'est un espèce de glissement progressif. Ouais.
Quel type de mélomane vous êtes aujourd'hui? Est-ce que vous achetez des disques, vous allez au concert, vous écoutez beaucoup de musique, pas, vous avez des phases? Comment vous...
Je vais malheureusement pas assez au concert, parce qu'il y a... Il y a beaucoup de choses à faire et il faut arriver à se...
Les journées ne font que 24 heures.
Il faut arriver à se ménager un tout petit peu quand même. Mais des enregistrements, oui. Pas mal.
Ça a toujours été comme ça? Est-ce que les disques dans votre formation, par exemple, musicale, quand vous étiez plus jeune, est-ce que ça a toujours été quelque chose près de vous? Vous aviez des phases, vous étiez toute une sorte de glouton par rapport à ça?
Non, j'étais plutôt accroché à une sélection de disques qui m'avaient frappé. Enfin,
lesquels, par exemple?
J'en parlais justement récemment, les Bartok de Frickshai, me souviens. C'était une des premières approches de ce répertoire. Ça m'avait beaucoup marqué, la musique pour cordes, le concerto pour orchestre, enfin, vous savez, c'est bon. Et puis, voilà, c'est un exemple comme ça. Je me souviens d'un de mes premiers disques, ça qui était une des révélations les plus fortes, c'était le concerto de Brahms par Oistrakh aussi. Et, voilà. Pas forcément d'ailleurs, justement, le répertoire pour piano.
Qu'est-ce que vous avez envie aujourd'hui, au disque comme au concert? Vous avez parlé de l'importance parfois des commandes qu'on vous passe, ou des rencontres, mais est-ce que vous avez déjà des envies actuellement d'enregistrement prochain ou de répertoire à attaquer ou autre?
Il y a des choses dont on sent capable. C'est vrai que le disque a beaucoup. L'enregistrement a évolué, je pense, parce qu'il y a. Si je regarde par exemple il y a 20 ans ou 30 ans, faire un disque c'était une chose vitale, précieuse. on prenait la tête à eux-mêmes. Moi, j'ai été le premier. Voilà. Bon, aujourd'hui, c'est différent. On dit, tiens, ah, ça serait bien de faire ça. Voilà. Alors, il y a eu aussi cette démarche qui consistait à dire, qui est un petit peu dépassée aujourd'hui, de dire, qu'est-ce qui n'a pas été fait et qui pourrait tomber dans un créneau. Alors, j'espère aujourd'hui qu'on a un petit peu dépassé ça, sauf dans le cas de musique à découvrir. Et ça, bon. Mais par exemple, si j'en reviens à ce disque qui sort aujourd'hui, des Kammerkonzerte de Berg, c'est une pièce qui m'habite depuis, de loin en loin, depuis presque 20 ans. D'ailleurs, j'ai réalisé cet enregistrement, je l'ai joué la première fois, oui, il y a une vingtaine d'années, après laisser, rejouer, relaisser, enregistrer une première fois en tant que pianiste. Et donc, c'est vraiment, ce disque, c'est l'aboutissement, certainement pas, mais en tout cas, la trace de quelque chose qui était déjà inscrit depuis longtemps.
Merci beaucoup Jean-François Esser.
Merci.
Cobuzz.com Rencontre par Marc Zisman.